Bonjour, bienvenue à la bibliothèque de la Tour d'Aigues où, grâce à l'association des Nouvelles Hybrides, nous avons le plaisir de recevoir Maud Thiria pour l'ensemble de son œuvre ou presque, surtout pour son dernier livre, Déshérente, et pour son nouveau texte, Colchique, qui a été travaillé lors de sa résidence ici. 4 semaines, n'est-ce pas ? Maud Thiria, vous êtes parisienne, puisque vous êtes née à Paris, vous y vivez, mais cela ne vous empêche pas d'arpenter les plages de la Normandie ou les reliefs de la Lorraine, région qui fait partie de vos constellations d'enfance. Vous écrivez, vous dessinez, beaucoup. Vos poèmes sont publiés dans une vingtaine de revues au départ, telles, alors là il y en a beaucoup, hein, le Nouveau Recueil, Diérèse, Thomas, etc. Vous travaillez aussi avec des artistes, amenant vos mots à rencontrer les peintures de Christian Garder, par exemple, ou bien à se lover dans des livres pauvres pour Daniel Lewers. Alors, toute petite parenthèse, le livre pauvre, c'est un concept qui a été lancé par ce fameux Daniel Lewers, qui est critique littéraire et poète. Il s'agit d'une création sur papier, manuscrite et illustrée. Ce serait une forme inspirée par les manuscrits enluminés de René Char. Et je vois que la bibliothèque a mis René Char en avant sur son présentoir. Donc, voilà, fermons la parenthèse. Et il y a une belle série de recueils dont nous allons évoquer quelques thèmes. Ces recueils qui s'orchestrent d'ailleurs, vous vous en rendrez compte petit à petit, selon une sorte déjà de dramaturgie. Est-elle préexistante ou pas? On ne sait pas. Est-ce le hasard objectif à la Breton? On ne sait pas. Mais en tout cas, le premier texte paru aux éditions Ancrage s'appelle « Mesure au vide ». Et c'est une sorte... de lieu où elle explique ce qu'est son écriture, comment elle écrit. On a vraiment une sorte d'art poétique, en fait, c'est le mot, pour Mesure au vide. Puis, toujours dans la même édition, et illustré encore par Jérôme Vincent, on a Blukos, qui là présente la relation de l'autrice à la langue par le biais de la langue étrangère, puisque Blukos est un mot allemand et se retrouve, il y a un blockhaus au bas de son jardin en fait. Et l'enfant va se cacher dans le blockhaus et elle est fascinée par le terme blockhaus, un petit peu comme Colette pouvait être fascinée par le terme presbytère. Simplement que blockhaus, elle sait ce que ça veut dire. Et donc on a cette rencontre avec l'autre, avec l'altérité. Et là c'est quelque chose de très important parce qu'on en discutera un petit peu plus tard. Puis nous avons l'application de cette écriture et de cette rencontre avec l'autre, avec la fissure des mots. On va le retrouver dans plusieurs volumes, Trouée, Falaise au ventre et Déshérente. Ces textes ont eu des récompenses, par exemple Falaise au ventre a eu la bourse de poésie Gina Chénoir de la Société des gens de lettres et Blockhaus a eu le prix Ivan Gol, donc puisque c'est voilà, comme ça. Et puis le dernier texte, eh bien ça on verra plus tard. Mais pour le moment, rien n'est mieux que d'entendre un auteur dire ces textes, et je crois que vous nous avez préparé une lecture d'une partie du Déshérente. Dernier volume, Déshérente. Donc avant de parler de Déshérente, écoutons-le.
Qui es-tu qui a perdu ton nom? Qui es-tu qui a perdu la tête? Recroquevillé devant le jour à ta fenêtre, surcreusant le vide, grise, brouillée, barbouillée par trop de larmes, tes armes face à l'oubli, surface de sans visage, coule, ne coule plus tes souvenirs en miroir, sur vitre, peau, pupitre, roule et toi en boule, repliée en ta source, n'attendant plus que, ne vienne plus que, ça que tu ne reconnais plus. À ton rideau coulent tes souvenirs, souvent à venir ou pas. Rides de peau qui plissent encore plus en ton repli, de chair, cervelette asservie. Tu dessines dans l'air de la pièce où tu tiens ta rareté d'être par la manche. Fantôme en ton vêtement, trop, toujours trop, ta démesure. Tu ne sais plus ton nom marqué à ton poignet, comme à ta naissance. On t'empoignait pareil, si légère cette à peine d'être. Presque pareil, toute une vie dans ce presque, reliant un cordon ridé au pli premier. Toute une vie à déplier ce presque rien dont aujourd'hui tu ne te souviens. Assise là sur un fauteuil recouvert de toile plastique, comme ceux chez ta grand-mère, remonte en mémoire, pareil, protégé, froid, aucun contact sur chair endolorie, un tissu doux où asseoir ta peau, tes mots mourant de froid dans le vide, des regards détournés, tu te replies, à quoi bon que ça remonte, ta chair n'en serait qu'encore plus mutilée. Échoué là, entre deux chambres qui crient « Je veux mourir » et deux visiteurs inconnus passant impatients, peine perdue, le long des courants d'air, des couloirs où coulent tes souvenirs, glacés tes mains de plus en plus avec le temps. De loin, on te tend un châle, oui, mais la chaleur, la leur. Échoué là, au bord, la couverture, au bord de toi, tu couves un feu maigre, mais qui le voit l'entend. Tu couves ta colère, mais si froide. Tu rentres un peu plus en toi, en ce que tu t'es, entre deux chambres d'écho, je veux mourir. Au bord, la couverture qui ne couvre aucun cri, juste ton maigre feu de camp de nuit. Comment as-tu atterri là, dans un non-monde, un non-toi établi? Attablé tout au bord du lit, tu attends une réponse, mais de qui? De qui est la question aussi anonyme autant que toi-même? Quand vient-on me chercher? La voiture est-elle arrivée? Il n'y a rien à répondre à cela qu'il te taise. Tu es seul. En lent atterrissage sur le sol, tu valses, mais ce n'est pas des pas de danse dépareillés, c'est de la chute que tu es à présent. Sur le sol de lino clair, propre et nu, sans aucune trace, tu dévis de justesse ta trajectoire en territoire perdu. Tu dévis, ne sais plus, regarde ton nom à ton poignet, mais est-ce là ces lettres, ton nom, ces signes au seul nom d'oubli? En bloc échoué là, tu tiens dans cette figure, roc pour ne pas fléchir, le tendre friable à portée de main, mais ganté souvent, te manque le contact de toute chose sur ta peau, te manque le lien, en bloc ta parole défaite, ça sort d'un coup craché ces mots retenus, tenus en laisse, tes bribes de mots ravalés, ça sort d'un coup sec, informe en tas, gravat autour du roc où tu tiens. Tu fais bloc de ça qui t'échappe, ça s'effiloche et se dévide, tes pensées décolorées sur les murs pastellisés d'ici. Tu t'accroches aux peaux synthétiques du lit quand ta douleur d'être devient trop forte. Tu dévales dans les préaux ta balle aux prisonniers dans le dos, tu déballes tes billes et tu vises là où ça dévisse en toi. Tu as perdu la boule, tu roules en pure perte, entre deux mots tu jures, ça n'arrivera plus, et ça ne fait que commencer. La faille des roches, des murs fissurés, les mots t'échappent, quand toi, prisonnière de ton errance, déshéritée du langage, tu migres dans l'inconnu, le connu que tu ne reconnais plus. Dans le désouvenir, territoire de l'errance dont tu n'as plus la carte, géomètre de l'invisible sur l'indicible route, tu tiens en bloc pour ne pas fuir entièrement. Tu sens que ça coule entre tes jambes, ce que tu ne peux retenir, ça prend l'eau de toutes parts et les mots stagnent, eux. Paroles murées dans ton corps qui s'écoule, tu te replies, mutique en ton radeau, pétrifié, musée du silence à clé perdue. Dérouté, tu suis les lignes sur le sol, ton périmètre de couleur, ton espace vide délimité pour ne pas sombrer encore tout à fait. C'est comme des traits de crayon de couleur. On dessine pour toi les contours de ta vie ici. Que tu ne dépasses pas du cadre. Que tu ne débordes pas du coloriage des lignes jaunes, bleues, blanches, censées te guider dans l'insensé. Ici, tu demeures en demeurée. Sur la terre cuite, sur le faux parquet clair, sur le lino nu, ici, là, en espace antérieur, le cru, le mou, le friable, le dur, l'épais, l'imperméable. Tu t'écroules, aucun cordon où retenir, un filet d'air aspiré, tu expires. Ça sonne dans ta tête ou bien est-ce ailleurs? On se précipite ou bien est-ce ailleurs qu'on te retient par le cou, les épaules, les cheveux? On coupe cela en toi, le déroulé du sens, l'évidence du langage. De là vient la violence dans l'antérieur du langage, ce qui décroche. Pas de mots pour dire encore, plus de mots pour formuler l'indicible. D'un bout à l'autre du fil manque la parole, le son de la langue décrochant le sens, le juste mot décochant la flèche. Manque la cible, l'adresse, le signe, l'autre. Entre les murs, les lignes, l'horizon amenuise tes souvenirs. Tu n'as plus que des sautes d'humeur pour échapper à ça, qui fait que tu devrais être chose vivante sans nom, sans mot pour le dire, sans personne autour que des passants, repassants, trépassants, ombre d'être se passant de toi, chose vivante, plus touchée, plus nommée, que pronom de l'informe « on » n'a bien mangé. « On » n'a bien été aux toilettes, on a bien bu, on a bien pris ses médicaments. On a bien, tu as mal, on te pèse sur le ventre. Tu ne serais plus que ça, le ventre du on incarné. Tu t'égares, tes mots plus les tiens, ta langue plus, tes mains, tes pieds plus, tu évapores le langage, paroles poreuses où le joint manque. Ouvrier perdu dans son propre chantier, architecte de cloison sans maison. Tu ne peux ni entrer ni sortir, que voir qu'il manque un trou ou qu'il prend toute la place. Maison trou qui prend l'eau, radeau, fauteuil roulant, sur vague déchaînée à raison débordante. Quel déluge en toi, quelle fonte des glaces premières pour en arriver là. Déchu, échoué en terrain vague, inconnu entre les murs, tu murmures, tu débloques, erratique de l'hôpital public, perdu dans ta musique en tête, sa dodeline en toi, rythme à géométrie variable. Dérouté dans ta déviance, tu atterris au noir, big bang d'une pendule détraquée. Qui es-tu qui a perdu ton nom? Qui es-tu qui a perdu la tête? Tu suis les lignes aux couleurs vives sur fond pastel effrayé, te frayant à plat un raccourci de vie où tu passes telle une ombre d'un nom perdu, ta maison de peine en boîte. Tu décapsules tes bouteilles à mémoire, mais rien n'en sort qu'une goutte sur ta joue, ta jambe, le sol. À quand le déluge qui te ramène d'où tu viens? Errante sans plus de place que celle attribuée à ce qui n'a pas de nom, forme, chair, tu attends, passe-temps à attendre un mot. On ne s'attache plus aux mots. À attendre une main pleine et pas creuse, ou faire ton lit dans le passage, mais tu déranges, tu dépends de ce qui arrange, tu ne vas pas, tu te tais, tu dois plaire davantage, correspondre, même si plus rien ni personne ne correspond plus avec ce toi on, indivisible, invisible. Désacclimaté, il te faut te fondre au paysage, au milieu qui n'est pas le tien, au pronom qui n'est pas le tien. Il te faut te confondre, te morfondre, oublier ton monde, te fondre au planning non familial des cases encastrables où excellent des chiffres implacables. Il te faut te souvenir de ce qui ne dérange, innommé. Est-ce que rien dérange? Réchauffement climatique. On observe la fonte des glaces. Les choses ne sont pas à la bonne place. Il est 16h et des poussières. Ta crème caramel coule par terre. Trop chaud ici où tu t'es assoupi. Ça dégouline sur le lino où rien n'a plus le goût de rien. Les choses ne sont pas à la bonne place. Les heures sont arrêtées au cadran. Tu attends le glissement des plaques, une tectonique du frôlement ou réchauffer les eaux froides.
Merci. C'est terrible, hein? C'est un texte d'une violence. C'est vraiment quasiment insoutenable. Et en même temps, on a une puissance. Et avec un vocabulaire qui est d'une simplicité extraordinaire, tout le temps. On n'a pas de mots qui cherchent à faire beau, qui cherchent à faire poésie avec, etc. Non. Mais on est vraiment dans une réalité brute, comme ça, qui est... Qui vous prend au trip, en fait. Hein. Et je crois que tout le monde, ça a été ça. Hein. On est vraiment... on est tous saisis. Et voilà, donc, déshérente. Moi, déjà, le titre m'a interpellée au départ, j'ai fait, tiens, déshérente, des, on dirait qu'on est comme dans les titres latins avec à propos de, hein, c'est le De Natura Rerum de Lucrèce, à propos de la nature des choses. Et le déshérente, c'est à propos de. Et ces errantes, alors, ce sont en fait les roches erratiques. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez en parler de ces roches erratiques qui ont fait comprendre que les glaciers, que les glaciations avaient existé quand même?
D'où le texte que j'ai lu qui parle de blocs et de glaciers. En fait, au départ, le texte devait s'appeler les erratiques. Je le dis parce que là, finalement, je préfère des errantes. Mais bon, il se trouve qu'au dernier moment, un philosophe a choisi d'écrire un recueil de poésie et il a choisi des erratiques. Donc c'était raté pour ce titre qui pourtant était vraiment là depuis longtemps. Parce qu'en fait, entre les différents livres, je vis quand même, enfin j'essaye. Et donc je parcours notamment les plages normandes. J'ai tout un projet avec une photographe autour de la côte, enfin sur le littoral normand, entre Cherbourg, enfin le nez de Joubourg plus exactement, dans le Cotentin, jusqu'aux falaises d'Étretat. Et là, forcément, enfin en tout cas c'est ma manière de faire, quand je vais dans un endroit, j'essaie de me documenter. Et là, j'étais, comme je suis passionnée de pierres et notamment de falaises, je me suis documentée sur les roches locales. Et il se trouve qu'à un moment, lors de lecture de livres un peu de géologie, je suis tombée sur ce terme de bloc erratique. Il y avait aussi les pierres migrantes. Enfin, après, il y a plein de mots qui forcément me parlaient. Mais alors, ces blocs erratiques, c'est assez étonnant parce qu'en fait, ce sont des... Alors, ça s'appelle des blocs erratiques, donc d'où mon titre, les erratiques. Et puis finalement, je me suis dit, mais moi, pour moi, c'est tellement important que je veux... Et j'ai trouvé un article qui dit les blocs erratiques ou pierres errantes. Donc, je me suis dit, ah ben voilà, je vais pouvoir appeler les déserrantes. Ouf, oui, quand même. En fait, ce sont des blocs de pierre qui se trouvent dans un milieu qui n'est pas le leur. Donc, ça va être par exemple le gros caillou à Lyon. Bon, là, c'est visible parce que c'est dans une grande ville, il y a un gros rocher. Mais ça peut être dans une région granitique, un bloc calcaire ou inversement. Et donc, pendant longtemps, il y a eu plein de théories, j'allais dire. Donc, il y a eu la théorie du déluge, et plein d'autres. Et puis, maintenant, on sait que ce sont les glaciers quaternaires qui ont décroché comme ça, qui ont arraché à flanc de montagne des blocs de pierre et qui, en fondant comme ça, ont charrié sur des centaines de kilomètres ces blocs. Puis après, ils se sont évaporés, ils ont laissé ces blocs dans un milieu qui n'était pas le leur. Et quand j'ai lu ça, alors que je sortais de cette résidence d'un an en hôpital gériatrique, donc c'est vrai que ça changeait d'être un hôpital gériatrique et tout d'un coup d'être face aux falaises. À la fois ça change, à la fois les falaises ont aussi ce rapport à l'effondrement. Finalement, il y avait quand même des liens. Il y avait des liens. Il y a toujours des liens.
Cet effritement.
Cet effritement de la mémoire. Voilà. Et là, le... De tomber sur ce mot-là, je me suis dit, mais c'est exactement, voilà, ça m'a inspiré tout le livre, parce qu'il m'a fallu quand même un moment pour trouver une certaine distance par rapport à l'hôpital. Et en fait, ce terme d'ératique, qui est devenu donc errante, vraiment pour moi était important, parce que ces personnes que je croisais, enfin plus que je croisais, avec qui j'ai pas mal travaillé pendant un an, me semblaient être comme ça, dans un milieu qui n'étaient pas du tout le leur, où elles étaient à la fois perdues à errer un peu dans les couloirs et en même temps aussi perdues dans leur propre mémoire, parce que c'était aussi, j'étais à la fois en gériatrie et psychogériatrie, où il y avait beaucoup de maladies, différents types de démence, mais aussi des maladies d'Alzheimer ou autres. Et donc voilà, elles me semblaient doublement perdues en fait, et c'est ce qui a, voilà, c'est ce qui a fait le lien avec ces blocs erratiques. D'accord.
Et pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire ce séjour en hôpital et d'écrire sur ces personnes qui sont égarées? Et vous avez un très beau terme d'ailleurs dans votre texte, vous dites à un moment donné « des souvenus
». Des souvenirs.
Il y a vraiment des créations comme cela à partir de la négation.
Oui, alors c'est un mot que j'avais trouvé en Bretagne. Négative. Oui, oui. En plus, oui, j'aime beaucoup les négations. Bah, on le verra dans Colchic après. c'est vrai que le D, en fait, il y a quelque chose d'une libération. Dans Colchic, c'est le cas. Mais là, oui, j'aimais bien ce terme que j'ai trouvé dans un texte, en fait. Et je crois que c'est en Bretagne que c'est utilisé, le des souvenirs. Et je trouvais ça très beau. Le choix de cette résidence, en fait, c'est une résidence Île-de-France. La région Île-de-France propose, en tout cas, faire un appel à candidature, on va dire ça comme ça, pour un écrivain qui a déjà publié. Et il se trouve que, voilà, ayant des enfants, je me suis dit, bah, la résidence Île-de-France, c'est l'idéal, ça me permet de ne pas partir des mois, où, c'est entre 2 et 10 mois, en fait, j'avais choisi 10 mois, et ça me permettait d'être à Paris, de trouver une structure d'accueil, parce que c'est à l'écrivain de trouver une structure d'accueil, donc c'est vraiment mon choix d'avoir choisi cet hôpital-là. Et puis ensuite, avec cette structure, bah de passer du temps, alors d'avoir 70% du temps pour écrire et 30% en fait pour agir. Donc moi, j'y allais quand même au moins 2 fois par semaine pour être en lien avec différents groupes et différents services. Si j'ai fait ce choix-là, en fait, alors c'est un peu étonnant parce qu'au départ, je voulais travailler avec des personnes aveugles. Je pense que je le ferai un jour parce que c'est, voilà. Mais il se trouve qu'il y a eu le Covid et que pendant le Covid, je me suis un peu demandé, j'étais professeure de français langue étrangère, de FLE, comme on dit, auprès de migrants et de réfugiés politiques à Aubervilliers. Et puis, bah, tout a fermé au moment du Covid. Donc, je me suis retrouvée des mois sans rien parce que c'était un centre de formation pour adultes. Donc, c'était fermé. Et bah, comme beaucoup, on se demandait quand est-ce qu'enfin on allait pouvoir travailler ou vivre normalement. Enfin, si vivre est normal, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Et moi, face à ça, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas tenter une résidence Île-de-France? Donc, je me suis dit, voilà, j'essaye. Et puis, je me suis dit, mais où? Quels sont les plus isolés dans cet isolement déjà collectif? Et en fait, alors c'est amusant parce que oui, je pense que j'ai un lien aux personnes âgées, enfin en particulier. En plus, je vis en face, j'habite rue de l'Ave Maria, mais j'habite en face d'une résidence, c'est pas la résidence Ave Maria, où il y a des personnes âgées. Donc en plus, je les vois de ma fenêtre. Donc il y avait déjà ce lien assez fort. Et quand j'ai dit à mes enfants, m'a dit j'aimerais bien travailler des personnes âgées, ils m'ont dit « Oh ben ça m'étonne pas, t'adores les vieux !» Donc voilà, donc bon, j'ai dit « Bon, alors, voilà, l'étiquette encore. » Mais il se trouve que voilà, ça s'est fait pour toutes ces raisons-là. Et en effet, je devais travailler dans 3 hôpitaux, Bretonneau, avec qui j'ai vraiment travaillé, mais aussi Bichat et Beaujon. Ils ne sont pas que gériatriques, ils sont vraiment des gros hôpitaux. Et là, le Covid circulant quand même pas mal, finalement, je n'ai eu accès qu'à l'hôpital Bretonneau, qui est à Montmartre, dans le quartier de Montmartre à Paris, où il n'y a que de la gériatrie et donc peu de circulation du virus. Bon, il n'empêche que quand je venais, on me donnait un masque et une blouse de médecin. Donc en fait, c'était un peu étonnant parce que voilà, tout le monde me demandait plein de choses médicales ou autres. Et puis, on me demandait où était tel ou tel service et que bon, bah, j'étais juste la poète, mais c'est vrai que ça ne se voyait pas. Voilà.
Oui, de toute façon, cette invisibilisation, on l'a aussi
oui,
pour ces personnes-là.
Exactement. Donc, oui, ça correspondait voilà. très, très bien. Et peut-être qu'on va parler.
Donc peut-être, oui, je ne sais pas. C'est tout à l'heure, en aparté, vous parliez de l'humour que vous avez. Et cet humour, moi, je l'ai senti dans le titre de la deuxième partie, avec « Mon nom est n'importe ». Évidemment, on pense au western, « Mon nom est personne ». Là, on est complètement
dedans. On est dans le western, est-ce en plus, la deuxième partie.
Il
est presque un peu plus drôle, mais moi, je me dis, c'est difficile de lire du...
On a l'hôpital et ses fantômes.
Je pourrais en lire un petit bout, mais oui.
D'ailleurs,
alors, en fait, c'est toujours un peu étonnant parce que quand on arrive dans un endroit comme celui-ci, qui a priori n'est pas très drôle, enfin, moi personnellement, quand j'y suis allée un peu en terrain inconnu. J'aime bien les terrains inconnus, mais bon, là, c'est. Alors, pas complètement inconnu parce que j'ai pu voir ma grand-mère en EHPAD, mais bon, j'avais pas des liens, on n'était pas très très proches. Le premier atelier, je suis allée tout de suite en service longue durée. Le service longue durée, c'était vraiment un service très difficile où finalement il n'y avait pas une salle. Moi, je m'attendais à rien parce qu'en fait, je m'attends à rien, mais je pensais qu'il y aurait une salle un peu à part, comme une bibliothèque ou juste une petite salle où on pourrait se retrouver à peu parce qu'avec le Covid, on ne pouvait pas être plus que 5, 6 maximum. Donc, de toute façon, c'était très peu de personnes. Mais je m'attendais à être accueillie dans un lieu un peu à part. Il ne se trouve pas du tout. Et en fait, je suis arrivée et c'était la grande salle avec la télé allumée, le goûter qui venait d'être servi, donc des personnes qui s'endormaient et en effet, tout coulait un peu partout. Et voilà. Et c'était un peu une scène que je décris, mais en fait, qui m'a beaucoup marquée. Où j'étais obligée de dire est-ce que c'est possible de baisser la télé ou de l'éteindre ou... Et puis de me retrouver finalement autour d'une table avec des personnes qui étaient évidemment dans l'incapacité d'écrire, donc ce n'était pas un atelier d'écriture, c'était plus beaucoup de personnes qui étaient branchées à des fils ou qui étaient toutes en fauteuil roulant. Et en fait, je me suis adaptée, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, en fait, donc il n'y a pas d'atelier d'écriture. Je n'avais pas vraiment réalisé qu'il n'y aurait pas du tout ça. Et qu'en fait, j'étais venue avec des poèmes et que par thématique, beaucoup, je lisais des poèmes et finalement, j'avais leurs réactions. Ça faisait monter des souvenirs où il y avait des réactions parfois plus ou moins cohérentes. Enfin, voilà. Mais en tout cas, j'avais des réactions et je notais, en fait. Donc, j'ai passé mon temps à noter, à les écouter, à lire, voilà. Et la première séance, justement, là, dans ce service-là, je suis sortie vraiment en pleurant et en me disant « Mais qu'est-ce que j'ai demandé, dis-moi là ?» Vraiment, pourquoi est-ce que je vais tenir, en fait ? Et puis, finalement, progressivement, j'ai été dans d'autres services, mais j'ai quand même été beaucoup en longue durée, avec souvent le même groupe. Donc, on se retrouvait avec leurs mots. Je leur écrivais des poèmes avec leurs mots, en fait. Donc, ils se retrouvaient. Ils disaient « Mais là, c'est moi. » Donc, il y a vraiment des liens qui se sont créés très forts. Et on s'appelait tous par les prénoms, les innommés. Ça s'appelle les innommés, mais en fait, on se nommait. C'est-à-dire que j'étais la seule à savoir les prénoms de chacun. Vraiment, c'était important parce que au départ, j'avais été invitée, enfin, c'est moi qui avais demandé à cette structure de m'accueillir, mais ensemble, on avait monté un projet et c'était mémoire, toucher et identité. Et le projet s'appelait Il n'importe, parce que c'était pour montrer que je confonds avec l'autre après. Mais il n'empêche, pour montrer que justement, il y avait à la fois un empêchement, mais que l'expression il n'empêche, c'est qu'on va quand même y aller. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de choses, des échanges très riches, mais il y a eu aussi énormément de joie. C'est pour ça que peut-être il y a un débordement dans la deuxième partie. C'est qu'en fait, j'ai eu l'autorisation à un moment, alors je leur ai apporté de la musique, donc il y avait aussi tout un rapport à la musique qui faisait remonter des souvenirs, des poèmes chantés, enfin voilà. Et eux-mêmes me demandaient, on aimerait bien telle ou telle musique. Donc j'avais ma liste Spotify, spécial bretonneau, enfin je ne fais pas de la pub, mais c'était... Il faut que j'avais ça. Et puis je suis arrivée avec une petite enceinte, et puis progressivement, j'ai eu l'autorisation de les enregistrer. Alors, heureusement, c'était qu'à la fin, parce qu'il y a eu tellement d'heures d'enregistrement que c'était compliqué après de tout trier. Mais parce que j'ai décidé de monter un film à la fin, en fait, la restitution, je me suis dit, ça va être ma voix en train de lire des poèmes, leur voix en train de réagir, en train de rire, en train de chanter, parce qu'il y a eu tout ça. Et puis donc un film avec donc toutes ces voix-là qui est en voix off, enfin, et puis que j'avais monté, et bon, un montage très simple, hein, je ne suis pas la pro du montage, mais c'était voilà. Et puis j'avais fait évidemment un film, alors pas avec leur visage, voilà, mais autour de Bretonneau et de leur quartier. Donc c'était Montmartre, tout finalement, toutes les rues qu'elles avaient pu connaître, c'était leur quartier. Donc il y avait ce film et les voix, et à toute fin de la résidence, il y a eu dans la salle, il y a une salle de théâtre où il y avait absolument plus d'animation parce que c'était le Covid, mais le film est passé sur grand écran où elles étaient là dans leur fauteuil roulant, la plupart, et elles se reconnaissaient dans leur voix. Et puis entre-temps, il y en a qui malheureusement avait disparu, et donc il y avait leur voix, donc c'était aussi très très troublant et touchant d'attendre ces voix disparues entre temps. Voilà, donc c'était... Alors pour répondre au western, c'est parce que justement il y avait, comment dire, ce qui m'a... Et ça c'est venu vraiment après, c'est qu'en fait, il y a eu tous ces rires. Et donc dans le côté peut-être un peu sordide, enfin on pourrait dire ça comme ça, ou une forme de misère finalement qui est très cachée, qui est très invisibilisée par la société, il y a plein de choses qu'on ne montre pas, tout d'un coup, en fait, a surgi une forme de joie, de quelque chose vraiment à laquelle je ne m'attendais pas. Et ça a été, ça a été très surprenant. Et puis, le côté western, c'est aussi le côté, quand je le dis, je parle d'être à l'ouest, évidemment que c'est un jeu de mots, mais en même temps, bon, il y a de ça. Et en fait, il y a dans le côté sans filtre, notamment de la psychogériatrie, il y a eu énormément de ce que j'ai appelé des pépites. C'est-à-dire qu'il y avait des mots, des expressions qui sortaient, qui étaient tellement géniales que je les ai notées. Et d'ailleurs, dans le livre, elles apparaissent, parce que je ne voulais justement pas du tout les piller. Il y a quelques-unes de leurs expressions ou quelques-uns de leurs mots qui sont en italique. Et tout ce qui est en italique, ça vient d'eux, en fait. Parce que, ou d'elles, parce que c'est des personnes âgées, ou d'eux, enfin... Voilà. Et c'était important pour moi d'avoir ma propre voix, de ne pas utiliser que leur voix, tout ce que j'avais entendu, de vraiment avoir ma propre voix poétique. C'est pour ça qu'il m'a fallu 2 ans pour l'écrire, vraiment. Mais de conserver ce que j'ai appelé ces pépites, parce qu'il y a des choses magnifiques. Ou réchauffer les eaux froides, ça venait de l'un d'eux. À un moment, j'ai dit, qu'est-ce que c'est la poésie pour vous? Et il y en a un qui m'a dit, c'est ou réchauffer les eaux froides. Et je trouvais ça tellement incroyable et beau. En fait, voilà, donc ça fait partie du livre. Voilà pour les pépites. Et puis, bah, le côté à l'ouest, oui, parce qu'à un moment, en fait, c'est parce qu'à chaque fois, je leur demandais comment elle ou il s'appelait. Et certains ne savaient plus, donc je regardais à leur poignet. En effet, il y avait marqué le prénom, le nom. Et donc, on s'appelait par le prénom parce que l'identité passe beaucoup par le prénom qui rappelle, en fait, on est tout le temps appelé par le prénom dans notre vie. Donc, finalement, ça faisait jaillir des souvenirs beaucoup plus qu'un nom de famille ou un monsieur, madame ou un on, puisqu'il y a le on, le fameux on, malheureusement. Donc, à un moment, j'ai demandé à l'une d'entre elles comment elle s'appelait et elle m'a dit « n'importe ». Et donc, je trouvais ça drôle de dire « mon nom est n'importe ». Voilà. Et c'est évidemment que ça a fait tilt avec le western. Et voilà, vous savez tout. Non, mais il n'y a pas... En fait, c'est bien comme ça, en fait. Ce n'était pas forcément pensé. Mais je me suis dit qu'il fallait l'utiliser avec un peu un brin d'humour. Bon, qui n'est pas très facile, vu le contexte. Mais il y a quand même...
On a vraiment les gens qui bavent, les gens qui sont complètement perdus. On les voit, on les imagine, qui errent comme ça dans les salles, les couloirs, qui sont en quête. Ils ne savent même plus de quoi ils sont en quête, en fait. C'est le côté... On a vraiment des êtres qui sont... Et les mots qui leur échappent et qui restent là, juste dans le texte, et qui les incarnent encore un petit peu. Et pourtant, en plus, dans ce texte-là, il y a des moments d'un lyrisme incroyable. J'aimerais bien que vous nous lisiez la page 51. C'est d'un coup, il y a... on commence, ça commence sur une chaise et d'un coup, ça part. Il y a quelque chose, la poésie qui ressort et on a des fenêtres extraordinaires qui s'ouvrent.
Oui, 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 bien sûr. Mais après, je dirais qui. Enfin, c'est parce qu'il y a une forme de portrait, en fait. C'est plein de personnes différentes. Donc là, je sais qui m'a dit ça, en partie. Captive du monde de la chaise, n'importe. Tu attends le départ comme d'autres, un prince, un ogre, une bête. Tu t'es faite belle à en mourir. Tu dis les oiseaux de ton enfance avide que ton père capturait pour vous ravir. Tu dis le bondissement de l'eau sur les rochers, l'émerveillement que ton seul œil renvoie, le blanc aveugle de nacre lucide. Tu dis l'eau et l'aube et l'or et ce que nul ne voit. Toi, voyante d'un monde disparu, toi, orfèvre d'un champ perdu, dont tu détiens encore la clé de sol sans doute, la note première qui tirerait tout le reste d'une partition, musique que seules peut-être les pierres contiennent encore, immémoriale et déportée.
C'est magnifique. Et bouleversant, n'est-ce pas? On a vraiment... Alors c'est la question
elle,
que je me suis posée, c'est, voilà, c'est la beauté du monde face à l'oubli, est-ce que c'est ça la force? Et la force de la poésie, la force de l'art, est-ce que c'est la pierre erratique qui nous permet de nous maintenir même dans les lieux où on se sent mal?
Oui, sans doute. C'est, en tout cas, peut-être que c'est ma vision d'apporter aussi de la poésie ou d'aller la chercher, hein, parce que c'est, je pense que c'est un échange, dans des endroits où on ne l'attend pas du tout. Comme la vie aussi, où on n'attend pas spécialement la vie ou la poésie dans ces endroits-là. Mais, et en fait, il y a vraiment un échange. C'est-à-dire que finalement, moi, je donnais le peu que j'avais et finalement... j'ai reçu énormément, en fait, et leurs mots, c'est pour ça que je les ai mis en italique. Là, ce que je viens de lire, en fait, c'était une femme qui allait partir et qui avait, c'est une des seules fois où j'ai vu quelqu'un en seul à seul, en fait, parce que la plupart du temps, c'était en petit groupe et j'allais pas dans leur chambre. Et elle, bah, ça s'est fait comme ça, elle attendait sur une chaise, il y en a beaucoup qui attendent sur des chaises, mais elle attendait, il y avait vraiment quelqu'un qu'elle allait chercher, c'était pas, voilà, c'était pour de vrai. Et elle avait un œil blanc, donc voilà, il y avait cette espèce d'aveuglement, et en même temps, elle disait des choses mais fabuleuses, et elle racontait que petite, son enfant capturait des oiseaux avec plein de couleurs, et donc elle était dans cette espèce de couleurs, de vie, de choses vraiment magnifiques. Et tout ce qu'elle disait était vraiment magnifique. Et donc j'ai noté. Et je voulais lui rendre hommage, en fait, dans ce portrait-là, parce qu'en fait, tout ce qu'elle disait avait cette espèce de lyrisme, en fait. Hein.
C'est vrai,
c'était elle, la poète.
Mais c'est vrai, oui. On a vraiment cette impression-là. Ouais. Et puis, ces personnages tout simples et qui sont les délaissés, en fait, les innommés, les rôles. Et en fait, ils prennent une dimension complètement mythologique. On a ce personnage qui est là, c'est qui ça. Est à moitié aveugle. Merci, on est presque avec Homère. Et qui va tenir le verbe et qui va le tenir dans la beauté des choses. Comme
exactement,
ça.
Exactement. Et c'est un petit peu ça que je voulais dire, même à travers d'autres pages où il y a cette comment dire par justement, là, c'est presque un contre-pied, mais justement dans cette position où il n'y a plus vraiment de mémoire, il y a une espèce de rébellion, en fait. Et c'est un peu ça que je voulais dire, le côté western. C'était le côté aussi, j'existe et je débranche. À un moment, il y a un passage sur le débrancher les...
Oui, bien sûr, allez-y.
Parce qu'en fait, il y a un moment où... oui, mais c'est difficile de choisir. Là, je me suis dit, je vais me concentrer sur la première partie. Puis, c'est vrai que la deuxième, il y a des choses... Alors, je ne sais plus parce que je crois que c'est un peu plus loin. Vous êtes plus, à mon avis, ou si vous connaissez mieux que moi. Il y a plusieurs passages, mais il y en a... peut-être que c'est sur... Il y a beaucoup de choses, mais peut-être ici.
Ah oui.
Tu dis celui-ci
avec... Allons-y.
Je sais pas.
Oui, j'essaie de tout capter en même temps, c'est très bien.
Oui, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait de... Par exemple, à un moment, il y a une personne, d'ailleurs c'est en Italie, qui me dit « il y a trop de mère en moi ». Moi, je dis, et là, il y a trop de mer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, je trouvais ça beau, donc je l'ai mis. Et puis, il y a aussi tout ce que je vais lire ensuite, c'est le fait de quelque chose, une chose dont on ne parle jamais, en fait, mais vraiment jamais, c'est la sexualité des personnes âgées. Et en fait, moi, on m'a dit, à un moment, on m'a dit, mais tu sais, parfois, on ouvre une porte un matin, et puis il y a un corps qui est sur un autre, en fait, qui, pendant la nuit. Bon, on ne sait pas si c'est avec ou si c'est consenti ou pas, enfin, je ne sais pas. Mais il y a un besoin aussi de toucher, de contact. Enfin, quand je dis sexualité, c'est même sensualité. Enfin. Mais en tout cas, voilà. Et c'est assez étonnant, en fait, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout, comme si c'était complètement tabou. Alors, déjà que la vieillesse est tabou, mais alors, la sexualité chez les personnes âgées, c'est au-delà. Et en fait, quand on m'a dit ça, je me suis dit qu'il fallait que je le dise d'une certaine manière, parce que, mais en même temps, c'était plus le contact, en fait, le peau à peau. Parce que pendant certains ateliers, certaines séances, il y avait des personnes qui se caressaient, qui se touchaient, alors qu'on était en plein Covid, qu'on n'avait pas le droit de se toucher, surtout pas. Et elles se touchaient. Et moi, je disais, mais c'est incroyable, ce sont des amis. On me disait, ah non, ils ne se connaissent pas. Mais en fait, elles avaient un tel besoin de se toucher que même inconnues, enfin, elles se touchaient. Et je trouvais ça très beau. Donc là, peut-être celui-ci, parce qu'il y a un côté un peu... quand je dis barré, parce que j'emploie ces mots-là, en fait, c'est parce que c'est des gens un peu en marge et qui, pour ça, ont ce côté aussi, je ne sais pas, qui, moi, me touche particulièrement. Tu dis, j'essaie de tout capter en même temps. N'a de cesse de gonfler tes joues, yeux exorbités, cheveux ébouriffés. Tu donnes plus d'espace à ton corps, comme s'il pouvait ainsi tout recevoir, tout ce à quoi tu n'as plus accès ici. Tu écoutes aux murs, aux serrures, essaie de capter les codes secrets des portes. L'ascenseur est bouclé et si tu veux sortir, apercevoir l'ailleurs, tu écoutes au cœur des autres, ceux qui se couchent sur toi la nuit. Tu écoutes aux veines, aux poumons livres ouverts, des bouches sans dents, aux murmures sans voix. Tu retiens les sens, les signes. Il y a trop de mer en moi, mais tu fends les eaux parfois entre deux parois inaccessibles. Ceux qui se couchent sur toi la nuit vont et viennent. Et ce n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même et me comprend. Tu récites des vers sur les ronflements des autres, couchés au couchant. Gisèle gisant là sur ton ventre doux, c'est l'heure des basculements. Le sombre et le clair, ça peut faire la culbute. Gisèle gisant là, et qui danse de ses yeux sur ta peau, ici, on ne se touche pas, sauf quand tout fait la bascule, aux heures surcreusées, l'hôpital et ses désirs fantômes, ses membres fantômes criant la nuit, surtout la nuit, les moignons de Gisèle si doux sur ta peau et qui danse, et ta gencive creuse ou redresser la langue.
Oui, non, il y a la matière qui est terrifiante.
Parce qu'on parle des membres fantômes et qu'il y a tout ce côté, bon, la couverture a un côté un petit peu fantomatique. C'est une amie peintre, en fait, c'est une peinture, on dirait un peu une photographie, mais c'est une peinture sur calque. Et elle a fait, il y a toute une période où il y a des plissés. Et en fait, je me suis souvenue, quand j'ai écrit ce texte, je me suis dit, ah, mais il faudrait que je revoie ces dessins, enfin, ces peintures de plissés. Et voilà, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Oui, il y avait un côté entre les plis des peaux puis cette allure de fantôme, en fait, voilà, cette errance.
Alors là, il y a quand même quelque chose qui est frappant dans tous vos livres. Dans tous vos livres, il y a un pronom personnel « tu », tout le temps. Et il revient depuis le premier, donc « mesure au vide », jusqu'à « déshérente ». Hein, ce « tu », c'est l'autre. Voilà. Mais c'est aussi parfois vous, et il prend aussi une dimension universelle. Pourquoi employez-vous ce « tu » précisément ? Bon, je ne ferai pas l'injure de dire que cela englobe aussi le lecteur dans le processus de l'écriture, que cela fait partie de l'évidence, etc. Mais cela va quand même plus loin que ça, je pense.
Oui, oui, ce n'est pas qu'une adresse, en effet. En fait... C'est vraiment quelque chose que je tiens depuis longtemps. Enfin, je crois que quand j'écris au-dessus.
Ça commence là.
Oui. Et puis même le premier publié, mais je veux dire, même avant, quand j'écrivais et que je ne montrais pas mes textes, je pense que j'écrivais beaucoup au-dessus. En fait, oui, c'est en effet moi. C'est aussi l'autre, donc lecteur ou enfin, tout autre. Je pourrais dire nous, mais pour moi, le nous, c'est compliqué le nous, parce qu'il y a quelque chose de... un peu comme le on, alors pas tout à fait, mais il y a quelque chose de reliant dans le nous, mais il y a quelque chose qui invisibilise un peu l'autre, je trouve. C'est-à-dire que c'est un peu les autres et moi. Mais comme si on était tous d'accord, voilà, nous, on a l'impression d'un accord universel, alors qu'en fait, on n'est pas forcément d'accord. Et il y a un texte que j'ai écrit au nous, c'est un texte amoureux, qui n'a pas été publié, enfin, que je n'ai pas proposé encore. Mais voilà, parce que le nous, à la rigueur, ça peut être amoureux, là, il y a plus un sens, enfin, pour moi, en tout cas. Le nous pourrait être peut-être dans une forme de combat. Il y a un texte que j'ai écrit, qui est, donc là, c'est nous contre, mais... c'est le texte amoureux, mais sinon il y a un texte que j'ai écrit où il y a un peu un nous, parce que c'est un texte de nous sur une terre disparaissante. Donc il y a une espèce de, aussi de conscience collective. Mais sinon, ça me gêne un peu, parce que je trouve que les gens qui écrivent au nous, ils se prennent un peu pour des messies, je ne sais pas, quelque chose un peu... j'ai du mal avec ce côté nous qui fait comme si on était tous d'accord.
Pourtant, on en a un. Ah. Dans Troué.
Ah oui. Mm.
Tu tiens, même si les mots se perdent en miettes, nous perdent en miettes, en chemin, trace de nous, abandonnés pour qui ? Et alors, c'est d'ailleurs assez fou parce que trace de nous abandonnés, c'est abandonné et est. Alors qu'en fait, ce livre Troué parle des violences faites aux femmes. Mm. Mm. Hein ? Si vous ne pouvez pas oublier, il y a
c'est
une
nous
femme
presque
qui meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint tous les trois jours. C'est violent aussi. Et on a ce texte-là qui parle de ça.
Oui, Troué, il est particulièrement violent.
Il est très violent. Et là, on a ce nous. Et avec ce...
Qui n'est pas sujet en même temps.
Et qui n'est pas sujet, exactement. qui est en effet, qui est relâché vraiment en complément, qui est en regard comme ça. Mais qui est là.
Oui, oui, qui est là, et c'est dans la dernière partie, je pense.
Exactement,
et
page voilà. 75, on est à la fin.
Et la dernière partie est beaucoup plus, comment dire, c'est pas extérieur, mais en tout cas, ça devient plus universel, voilà. J'allais dire que les trois, c'est en quatre, ce que j'appelais des coupes, qui sont comme des parties, mais que j'appelais coupes pour une raison particulière, parce que c'est quand même le corps qui est tranché, retranché en lui-même par ces violences subies, et qui... en fait, c'est vrai, j'ai choisi de la poésie, de toute façon j'écris plutôt de la poésie, mais c'était, pour moi, ce n'était pas du tout un règlement de compte ou le récit d'une violence. C'était, voilà, c'est vraiment les ressentis du corps au moment où cette violence s'exerce. Donc c'est un texte qui est difficile parce qu'il est très dense, particulièrement irrespirable. Souvent on me dit, oh là là, j'ai pas pu respirer pendant tout le long. Je dis, moi quand je le lis, c'est pareil, je me mets des pauses, je me pense à respirer sur mon propre texte, parce que je n'arrive pas à trouver l'endroit, en fait. Et pour cause, parce que ça parle de, justement d'étranglement. Mais il n'y a pas vraiment le récit d'une histoire avec un lieu particulier, des personnes nommées. Et c'est écrit au-dessus, qui est vraiment une expérience plus personnelle et qui devient, justement, c'est pour ça qu'il y a une forme de nous, c'est que ça devient plus universel, un tu, ça peut être d'ailleurs sans visage, parce qu'en fait, c'est le sans visage au visage de toutes qui parle au nom d'eux. Mais là, parce que c'est au nom d'une violence. Donc, en effet, le nous a presque un peu plus ce sens-là.
Oui, puis c'est vrai que le tu, dans ce livre-là particulièrement, il rythme le texte d'une manière... incroyable.
Oui, parce que
vraiment, c'est vraiment comme ça le martèle complètement. Et ça vous entraîne. Et c'est vrai qu'on est pris dans un flux, mais qui est. En fait, on ne respire pas.
Non. Et puis, c'est un tu qui est, je pense, là, pour le coup, c'est à la fois le pronom, mais c'est aussi le tu, celui qu'on tait, en fait, qui est tu, en fait, par la force des choses. Et c'est celui qu'on tue, qu'on tente de tuer. Donc, en fait, le tu, a plein de sens différents. Mais il se trouve que j'écris souvent au tu, mais là, ça faisait particulièrement sens, puisque il y a tous ces sens-là derrière. Oui.
Si on reprend le déshérente, dans le fameux tu, justement, Hein, on a cet abandon du « tu » par le « on ». Mmh. Vous l'avez lu tout à l'heure avec cette manière complètement atroce que peuvent avoir les personnels soignants. Enfin, qui, on parle « et alors, on a bien mangé, ma petite dame, etc. » Enfin oui, bref, l'horreur absolue. Mmh. Et il y a une de vos créations de mots qui est magnifique, et vous l'avez lu tout à l'heure, c'est le fameux « toi on » qui est écrit en un seul mot. « Toi on » et en majuscule. Et c'est vrai que là encore, c'est
oui, indivisible,
la
c'est ça,
de la langue qui fait que et qui est la personne à ce moment-là. C'est voilà, c'est on est
et,
dans
et on s'interroge beaucoup en ce moment sur les pronoms, c'est que à la fois avec à travers la langue inclusive, enfin après qu'on soit pour ou contre, hein, c'est pas le propos. Mais là, par exemple, Aurélie Foglia a écrit un texte chez la même éditrice, hein, Lanskin, qui s'appelle On. On.e, pour interroger le pronom impersonnel on, indéfini, mais d'un point de vue féminin. Est-ce qu'il pourrait y avoir un pronom impersonnel féminin? Parce que quand on dit on, est-ce que c'est que les hommes? Est-ce que c'est qui est derrière ce on? Donc c'est intéressant de, voilà, d'une autre façon, mais de se dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas inventer aussi, parce que la poésie, c'est aussi le lieu de l'invention de mots, de... Donc c'est voilà, s'interroger, et quand on crée un mot comme ça, là je l'ai mis en majuscule, parce que je ne mets jamais de majuscule, donc là ça ressort oui, particulièrement, non. Parce qu'en fait je n'ai pas de ponctuation dans mes textes, je refuse les majuscules, même les noms propres n'ont pas de majuscules en général, parce que ça voudrait dire qu'ils n'ont, ils ont plus d'importance que d'autres, alors pour moi chaque mot a son importance, mais là le toit-on, oui, il est en gros, je crois que c'est le seul mot qui soit en gros comme ça, oui.
Voilà. Oh, il saute aux yeux, là, c'est vraiment, oui, c'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression, à la lecture de vos livres, que tous, en fait, s'attachent au cabossé de la vie, en fait. Les femmes battues, les personnes âgées qui se retrouvent en hôpital et sont maltraitées, en fait, c'est parce qu'il y a maltraitance aussi. Il y a donc, ça nous donne une sorte de poésie qui est désespérée, même si elle a de l'humour. Et c'est ça, voilà.
J'espère.
Et avec une très, très grande force. Alors, dans La mesure au vide, le poète est confronté au silence, au vide. Avec Blokos, on a le caractère inquiétant de cette construction grise qui est aussi le refuge d'enfance, et on est dans la découverte de l'altérité d'une langue ennemie. Attention, c'est voilà, donc l'autre en plus, voilà. Dans Troué, donc, il y a cette violence terrifiante, mais on a ce principe de vie qui est là quand même et qui fait que tous les abandonnés, ça ne fait rien. On a quelque chose de salvateur dans la poésie qui permet de se rattacher à quelque chose. On a l'impression que la poésie, c'est le lieu de l'humanité. Et qu'en fait, même lorsque les mots se fissurent, parce qu'on a, je sais plus dans quel texte là, on a des mots qui se fissurent, qui s'effritent, dans Falaise, par exemple,
ventre,
là,
ouais,
voilà, on a tout qui se délite, qui s'érode avec le temps, qui se remet en question, mais la poésie est là, l'art est là, et c'est ce qui nous permet de nous raccrocher à quelque chose qui va nous faire vivre.
Oui, oui. Pour moi, c'est ça, c'est écrire de la poésie, alors progressivement, hein, à travers aussi mes expériences de vie, enfin, mon vécu, mais c'est sans doute le lieu, peut-être le lieu d'accueil de toutes ces personnes qui n'en ont pas.
Mmh. Oui.
Mais parce que, pour moi, parce qu'on parle de public spécifique ou empêché, dit empêché. Moi, souvent, je dis, mais qui ne l'est pas, en fait. Quand on me dit, je suis handicapée ou je suis empêchée. Alors, évidemment qu'il y a certains handicaps qui sont plus lourds que d'autres, mais moi, je pense que chacun de nous est un peu handicapé de quelque chose ou empêché de quelque chose. Qui ne l'est pas? Alors, évidemment, il y a des handicaps plus lourds que d'autres, hein, je répète, mais on a tous un empêchement. On n'est pas. Moi, je me sens en marge, je me sens barre, je me sens. Et pourquoi justement sans doute parce que voilà, c'est pour ça que j'écris Colchic, hein, qui est donc ce texte sur l'enfance, enfin autour de l'enfance et autour de, en tout cas, de la lignée. Pour moi, je fais partie de ce monde-là. Enfin, et si je vais là en poésie, c'est parce que ça fait sens. Et pour moi, et parce que j'interviens aussi en prison, Et pour moi, c'est aussi très important d'intervenir en prison, aussi bien auprès... D'ailleurs, j'interviens plus auprès d'hommes que de femmes. Et c'est essentiel aussi face à ces personnes emprisonnées, enfin détenues, qui n'ont presque pas droit à la parole, de leur ouvrir comme une brèche, en fait, d'humanité encore possible, de parole encore possible. Parce que si on veut espérer une société quand même meilleure et ne serait-ce qu'une réinsertion possible, vu qu'on est quand même un des pays les pires en termes de récidive, je pense qu'il faut, dès la prison, agir et essayer de réparer quelque chose, et pour la victime, et pour la personne qui a commis un acte, évidemment. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire, en fait, beaucoup. Ouais.
Mmh. Une petite question, oui, avant de passer à Kolchik encore. C'est le travail sur la langue. On a vraiment un travail de plasticienne. J'ai vraiment l'impression tout le temps. Vous êtes, d'ailleurs, vous le dites à un moment donné, vous travaillez sur les pleins et les déliés. Ça se trouve dans vos poèmes. On a cette esthétique du vide et le trait qui va naître du vide. Et en fait, voilà, c'est exactement comme un sculpteur qui va être... Et on travaille sur le vide. On enlève les choses et reste... le mot. On a vraiment toujours une relation très très matérielle et très sensuelle avec les mots et avec ce qu'ils dessinent dans notre imaginaire, dans notre manière d'appréhender le monde.
Oui, alors il y a un rapport en effet très sensuel et très tactile, je dirais, parce que moi, mon rapport au souvenir est vraiment, j'ai vraiment une mémoire tactile, d'ailleurs, j'en parle dans Blocos, où vraiment j'ai des souvenirs qui sont liés aux matières rugueuses. Donc, le Blocos, il était rugueux, je suis montée dessus, je me suis égratignée les jambes notamment. Il y avait des ronces d'un côté, des barbelés de l'autre, donc si on tombait, de toute façon, on se faisait mal. Il y avait le crépi, je me souviens de chez mes grands-parents, le crépi de la maison qui est jaune, et qui justement où je m'égratignais les coudes en faisant la trottinette. Enfin, globalement, j'ai une mémoire. Bon, alors c'est du toucher plutôt rugueux que du toucher doux, mais bon, on a ce qu'on peut.
Hein.
J'ai une famille rugueuse, j'ai pas une famille douce. C'est comme ça, après, voilà où on va. Mais non, mais c'est...
Je parle de cocon
rugueux, mais voilà, c'est le cocon rugueux. Et donc, je pense que j'ai... Et puis, bon, pour revenir au côté plasticien, alors, il y a deux choses, c'est que j'ai longtemps été avec un architecte qui me disait, en fait, être architecte, c'est construire du vide. Et je trouvais ça très intéressant parce que, bon, mesure au vide, c'est ça, c'est vraiment construire du vide, en fait. On ne construit pas du plein, c'est-à-dire que le plein, il est là, en fait, on construit des ouvertures, des portes, des fenêtres. Donc, la construction par le vide, moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, je pioche à travers toutes les personnes que je côtoie. Vous allez me dire des choses et puis je vais vous piller après. Voilà, non, mais en fait, je me nourris de plein de choses. C'est ça, c'est être écrivain, sans doute, ou sensible. Et puis... Moi, ce qui m'a sauvée de cette expérience, parce que c'est quand même une expérience vécue, trouée, hein, je n'avais plus de mots, en fait, pour vraiment exprimer ce que j'aurais pu ou pas exprimer à l'époque. Et donc, en fait, vraiment, il n'y avait plus d'écriture possible face à cette violence qui m'a vraiment sauvée. J'avais comme mon auto-art-thérapie, on pourrait dire ça comme ça. C'est qu'en fait, alors que je n'avais jamais dessiné, j'ai pas du tout... ma mère m'a toujours dit que j'avais deux mains gauches, donc de toute façon... À partir de là, c'est mort, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais voilà, en tout cas, face à cette réalité abrupte qui m'est tombée dessus, en fait, ce qui m'a sauvée, c'est que tout d'un coup, j'ai senti que par le corps et par le toucher, justement, il y allait avoir quelque chose. En tout cas, j'ai donné trace, parce que j'appelle ça des traces de corps, à ces corps qui, peut-être, bon, qui pour moi avaient été violentés, donc... Il devait sortir et se réparer sur la feuille. Et en fait, jour et nuit, j'ai comme ça, en malaxant des matières qui étaient de la craie grasse, du brou, des choses voilà, quand même assez gras, que je malaxais vraiment directement au doigt. J'aurais pu sculpter, mais bon, à Paris, c'est pas toujours simple. On n'a pas toujours l'appartement adéquat. Là, c'était plus simple. Je prenais au départ des feuilles d'imprimante. Après, j'ai choisi des papiers un peu mieux, mais au départ, voilà. Et nuit et jour, je traçais comme ça des grands corps qui sont un peu comme des petits fantômes, finalement, un peu comme celui-ci autrement. Voilà, qui sont ce que j'ai appelé des traces de corps. Et j'ai un site, d'ailleurs, qui voilà, où il y a toutes ces traces et que j'ai exposées à un moment. Et puis après, toute cette expérience-là de traces de corps, je me suis mise à écrire et j'ai commencé à publier. Donc en fait, c'est à montrer mon travail et à publier. Voilà, donc il y a sans doute, ça se sent dans ma poésie, il y a sans doute ce rapport au corps et
de la trace. Et le thème de la trace, on le retrouve aussi partout en fait. Hein, partout. Et c'est vrai que dans votre poésie, il y a tout le temps des mots. C'est pour ça que je posais la question même au début. On a des mots qui, dès le départ, vous donnent ce qui va se passer après. Par exemple, là, dans Mesure au vide, on va avoir le terme troué. Pour ne pas fondre encore au vide, inscrire tes mots aux mains multiples, creusant le vide et l'épuisant, trouvant chair, même trouée. C'est le premier livre que vous écrivez, Mesure au vide, d'ailleurs.
Le dessin, d'ailleurs. Enfin,
voilà, oui, et on a, plus, oui. La, voilà, oui, donc, on a voilà. La page de garde qui ça, est trouée, on a le dessin, enfin bref, on a tout est là. Tout est déjà là dans ce texte-là. Voilà. Et après, on a, ben voilà...
Oui. Qui a changé plein de fois de titre.
Voilà. N'empêche que, voilà. Et en fait, on a ce phénomène-là, on peut s'amuser à chercher des correspondances entre les textes et tous s'annoncent les uns les autres. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc il y a quand même vraiment quelque chose de fabuleux, justement, dans votre manière d'écrire. Bon, après, donc, on a des échos aussi à l'intérieur des textes, mais ça, on l'a entendu, donc on ne va pas revenir dessus. C'est bon, ça, on va passer à Kolchik, puisque là, quand même, le temps est un souverain maître, n'est-ce pas ? Et Kolchik, c'est donc, vous avez postulé, vous aviez déjà commencé à l'écrire, et vous aviez postulé pour une résidence. Alors là, question vraiment complètement d'innocent, pourquoi une résidence ? En quoi est-ce qu'une résidence, qu'est-ce qu'une résidence, ça apporte à un auteur, à un artiste ? Pourquoi faire une résidence ? Se trouver hors de chez soi, de ses repères, dans quelque chose d'autre, dans un lieu où il n'y a rien ? Pourquoi est-ce que vous allez avoir besoin et pourquoi est-ce que les résidences, c'est tellement important ?
Alors, c'est être déplacé, en effet, il y a quelque chose de ça, du déplacement. J'avais fait une résidence donc Île-de-France, mais je n'étais pas vraiment déplacée. J'étais déplacée parce que j'allais en hôpital gériatrique, c'est quand même une forme de déplacement. Mais là, géographiquement, d'être déplacé et hors de chez soi, c'est déjà quelque chose de vraiment important, en termes de comme une retraite, en fait, avec vraiment ce côté-là, où on n'a pas les enfants qui nous tombent dessus, et tout ça. Bref, la vie. Non, mais c'est vrai que finalement, on est... voilà, si on décide de ne pas manger, on ne mange pas. Personne ne nous presse pour quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment cette solitude à vivre, à supporter, mais qui est importante. Et puis, ce temps à soi, en fait, comme on parle d'une pièce à soi, d'une chambre à soi, enfin là, il y a vraiment ce temps qui est très important. Et puis bah là, d'autant plus Luberon que je ne connaissais pas, donc il y a vraiment un déplacement géographique qui était important. Et je voulais clore ce texte, enfin clore, je ne sais pas s'il est vraiment fini, parce que c'est difficile de savoir. Puis alors celui-ci, c'est de la prose, donc c'est mon premier texte en prose et il est assez dur. Comme si les autres étaient faciles. Bref, non mais c'est autre chose, autrement.
Pourquoi mais, être passée à la prose d'ailleurs ?
En fait, c'est venu à un moment où, comment dire, je crois que j'avais comme un trou dans mon emploi du temps, on va dire ça comme ça, où pendant 2 mois, tout d'un coup, je me suis mis à écrire. Alors là, ça a commencé chez moi, donc à Paris. Et alors, je ne sais pas pourquoi, c'est venu en prose et c'est venu d'une manière très, très crue, très, beaucoup plus orale et beaucoup plus... Il y avait plus de lâcher prise qu'en poésie, même si ma poésie a du lâcher prise. Mais il y a quelque chose quand même de plus... c'est pas plus travaillé, mais autrement travaillé, même si je me permets quand même beaucoup de choses. Il y a voilà, un travail plus d'orfèvre, où souvent je... Alors, ça dépend après des textes, mais les premiers, en tout cas, à chaque fois que je les retravaillais, à chaque fois, bah, ça me fait penser un peu au sculpteur, c'est-à-dire vraiment j'enlevais des morceaux, j'enlevais pour aller presque à l'os, en fait, de ce que je voulais dire. Et déshérente, voilà, le blocos, parce que je parle du blocos, qui est un bloc d'os. Quand j'étais petite, j'entendais blocos. Je ne parlais pas du tout allemand, toujours pas d'ailleurs, mais en tout cas j'entendais bloc Holocauste. Et donc, je me disais, c'est un bloc d'os. Puis, c'est pas complètement étranger à ça, parce que c'était quand même un lieu de guerre. Enfin bon. Et, la prose me permettait de traiter de sujets qui sont très autobiographiques, pas que, mais quand même il y a un côté très autobiographique, et puis d'une manière très libérée, où en fait chacun va vraiment en prendre pour son grade. Non, ça m'a un peu échappé en fait. C'est comme si c'était un langage très oral. Mais c'est vrai que quand je lis mes textes, souvent je les relis à voix haute, surtout en poésie. Il y a toujours un rythme, il y a quelque chose d'une forme d'oralité. Mais là, il a un côté justement où ça sort, et je crois que je ne le restreins pas trop. Alors, peut-être qu'il faudra que je le restreigne plus. Mais là, alors, on ne se refait pas, mais c'est un peu ça. C'est qu'en fait, on ne peut pas dire que ce soit un roman. C'est en fait plein de courts chapitres, parce que finalement, bon, le court, c'est quand même plutôt mon moule. Même si je parle de moule à abattre d'un col chic, bon, je pense que j'ai quand même ce moule-là d'écriture qui est d'écrire court. Et donc, c'est plein de courts chapitres. Il y a une cinquantaine de courts chapitres. Voilà, ce qui fait quelque chose d'un peu long au final, mais c'est pas... Voilà, il n'y a pas de personnage, avec une psychologie des personnages, avec des noms de personnages, avec des lieux précis. Ça reste, une espèce de généalogie familiale par les femmes. En fait, je ne sais pas si je commence à en parler.
Oui, là, on va en parler alors, maintenant, oui, évidemment.
Le titre, donc, en fait,
c'est... Col chic et autre double sanguinaire.
Voilà, parce qu'au début, il s'appelait juste col chic, et c'est les vers d'Apollinaire, voilà. Mais parce que les col chics sont donc... c'est des fleurs vénéneuses, enfin, venimeuses, vénéneuses.
Oui,
c'est ça. En tout cas, il y a beaucoup de venin dans ce texte. Et puis, j'ai cherché, pareil qu'en géologie, en botanique, et j'ai trouvé les sanguinaires à floraison double, voilà, qui sont aussi toxiques. Et je trouvais que là, il y a un rapport au double, parce qu'il y a un rapport à la gémellité dans ce texte. Et je trouvais qu'un texte traitant de l'empoisonnement par les femmes de génération en génération, empoisonnement psychologique, mais psychique, mais empoisonnement lent de femme en femme, ça faisait sens d'avoir quelque chose de botanique, comme Médée peut avoir... Médée l'empoisonneuse pouvait avoir ses plantes. Ben moi, je me dis, voilà, mes plantes, voilà. Et colchique, ça vient de colchide, la terre de Médée. Donc, en plus, en cherchant comme ça, à travers l'étymologie des mots, la botanique, voilà, je suis arrivée à ça. Et ça collait avec mon propos.
Et puis, il y a Maud et Émaude, avec la jumelle avalée. Alors là, je ne sais pas quand est-ce que vous allez le publier, mais là, on va se jeter dessus.
Je ne sais pas.
Vraiment, parce que c'est une histoire complètement folle. Alors là, il y a une jumelle avalée, il y a un dédoublement de soi qui est soi, mais pas soi, parce qu'il y a l'autre qui aurait pu exister, mais qui... Oh non, c'est extraordinaire.
Alors, il y a une alternance entre des chapitres. Alors, ce n'est pas toujours... c'est pas une alternance, j'allais dire, stricte, mais il y a un tu et un elle. Donc, il n'y a toujours pas de « nous » et voilà, et de « on ». Mais il y a quand même un « elle ». Et en fait, les chapitres au-dessus, j'allais dire, sont peut-être encore que. Ça se confond beaucoup, c'est un peu trompeur. Mais les chapitres au-dessus sont plus autobiographiques, je dirais. Les chapitres au « elle » sont plus autour de la jumelle avalée. On ne sait pas trop qui parle de la avaleuse ou de l'avalée, mais... Voilà, je commence. Alors là, j'ai choisi quelques extraits. Je ne vais pas lire le... Non, ça, ce n'est pas la peine. J'ai mis l'étymologie, j'ai mis la définition de col chic, mais ce n'est peut-être pas la peine, puisque je commence par les vers d'Apollinaire. Mais... Alors, je vais commencer, je vais mettre debout.
Ce sera une belle conclusion, je pense, vous entendre.
Alors, en fait, chaque chapitre a un titre, contrairement à les poèmes qui n'ont jamais de titre. Ouais. Donc, ça change aussi un peu.
Ah oui, donc des chapitres et plus des coupes.
Alors, oui, je ne sais pas, peut-être que ça changera d'ordre, les chapitres. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, c'est... Là, ce sont des extraits, donc il y a une forme de désordre. Mais pour l'instant, en tout cas, le premier commence comme ça. Faire la morte. C'est assez drôle, hein. je précise. Non, en fait, il y a une forme d'humour parce que... Parce que justement, face à ce que j'ai pu entendre de moi, sur moi, quand j'étais petite, finalement, il y a des choses un peu drôles, vous allez voir. Voilà. Faire la morte. On apprend vite à faire la morte. En fait, on a toujours appris. Cela commence dans l'enfance. On nous dit d'être autre, de ne pas être celle-là qui naît, pousse et grossit, de ne pas envahir, de ne pas être vivante, sauvage et folle, comme on dit herbe folle, de ne pas exister telle que, d'être fille et donc d'être belle et tais-toi. Tais-toi si tes chaussures te font un mal de chien, c'est toi qui as de trop gros pieds. Ces chaussures sont parfaites pour la petite fille modèle à robe, corolle et col à volant blanc que tu n'es pas. C'est toi qui ne rentres pas dedans, dans le moule. Tais-toi si tu ne sais pas dire correctement bonjour aux invités, traduire par faire la révérence et embrasser surtout l'ancien amoureux transi de la mère qu'on invite encore, ce qui te fait un mal de chien à voir la gueule de ton père au passage. Tais-toi si tu n'es pas assez belle aux yeux clairs, tu as les yeux marrons cochons. Tais-toi si tu n'es pas assez fine comme ta sœur et tu auras beau te faire vomir que non. Décidément, non, on te regardera toujours comme Bouboule, le surnom familial qui te collera à la peau et qui, à mesure de ta transformation physique, se changera en Boule, ce qui, adolescente, est certes vraiment plus facile. Cela commence dès l'enfance. On apprend à se taire en famille, à se taire à l'école. Si on ne sait pas faire la rédaction parfaite, sujet, verbe, complément, de la prof de français de 6e qui déteste les poèmes qui surgissent de toi comme du pain. Et tu aimerais pourtant l'offrir ce poème, le partager. On t'a tant parlé du miracle de la multiplication des pains que tu avais fini par y croire. Mais tu le gardes au fond de la gorge et tu grossis de tout ce qui t'envahit, dont ni la mère, ni la mère patrie ne veut, puisque les deux systèmes sont plaqués l'un sur l'autre. Vive la langue maternelle et le patriarcat. Cela commence dès l'enfance. Tu es née fille, et cela commence dès l'enfance. Dès l'enfance de toutes les femmes avant toi. C'est cela que tu dois apprendre, le « tais-toi et sois belle » de ta mère avant toi, hérité de sa mère avant elle. Surtout le « tais-toi » parce que le « sois belle » pas trop avec sa propre mère qui n'avait pas le temps avec toutes ses grossesses successives. Elle a plutôt hérité du « il faut souffrir pour être belle ». Souffrance acquise, transmise de génération catholique en génération catholique jusqu'à la fin des siècles. Amen. C'est cela que tu dois apprendre. Et à baisser la tête, tu es trop fière. Et à baisser les yeux, tu ne peux pas fixer un adulte comme ça. C'est cela que tu dois apprendre. Le « ne sois pas toi-même » de toutes les femmes avant toi qui vont peser sur toi comme une chape de plomb. Ce n'est pas pour rien que l'on t'apprend cela dès l'enfance. C'est pour que tu aies toute la vie pour l'avaler et le recracher sur ta fille si jamais un jour tu en as une. Que tu lui fasses peser à ton tour qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être et qu'elle devrait se taire, oui, un bon coup. Cela commence dès l'enfance. La mère nous dit qu'elle a tout laissé pour ses enfants alors qu'elle aimait sa vie d'avant. Son métier était passionnant. On sait que l'on n'arrivera jamais à combler cette passion abandonnée, que tout est couru d'avance et que l'on sera vite abandonné à ce prix-là. Cela commence par des phrases, des mots qui semblent anodins, des surnoms, des vêtements, de l'apparat, surface lisse qui est en fait un couvercle sans soupape. On est perdu d'avance, puisque cela commence dès l'enfance. Avaler sa jumelle. On lui a dit qu'elle avait avalé sa jumelle. Ça arrive parfois dans le ventre de la mère, on peut se dévorer. C'est minuscule au départ et en une gorgée, on avale l'autre sans même s'en rendre compte. La mère ne l'a jamais su, à l'époque il n'y avait pas d'échographie, ni le père bien sûr. Mais quand ils sont morts, elle a eu des crises de ventre terribles. C'est alors qu'elle a su. Il y avait en elle une part qui n'était pas elle. Pas exactement le même ADN, proche bien sûr, mais pas pareil. On a dû l'opérer, lui enlever sa sœur, sa tumeur, son seul souvenir de famille. Mais elle s'est sentie mieux après. En tout cas son ventre. Elle pouvait être complètement elle-même amputée d'un bout de sa sœur en soi. Mais comme elle avait toujours fait avec, elle s'est sentie seule sans. Peut-être un peu comme sa sœur quand elle a senti qu'elle l'avalait dans le ventre de la mère. Elle a dû se sentir bien seule alors. Qu'est-ce que ça fait de se faire dévorer? Elle n'en sait rien, bien sûr. En fait, elle en a une petite idée. Parce que parfois, elle se dit que c'est peut-être elle qui s'est fait dévorer et que le bout entier, c'est l'autre. Qui est-elle au fond? Quelle est la meilleure part d'elle-même, la dévorante ou la dévorée? Est-on l'autre en soi? On lui a dit qu'elle était l'hôte et que la jumelle avalée avait continué de pousser un peu en elle, 7 cm quand même dans son ventre. Sa sœur, dite jumelle parasite, avait logé là, au chaud, mais incomplète. Pas vraiment vivante, pas non plus corps mort, fallait-il l'enlever. Elle se regarde à la jumelle, gros plan sur le ventre, son entaille au-dessus du nombril, 2 séparations. Le cordon de la mère la nourrit, on l'a ensuite coupé. Elle s'est nourrie de sa sœur, on l'a ensuite coupé. Entre 2 coupures, qui est-elle au fond? Maud qui rit, Maud qui pleure. Est-ce que l'on ressent davantage d'avoir eu un autre en soi? Elle se demande si elle verra double, si elle aura le don de double vue, si elle n'aura pas une vision à double foyer. Elle se demande si les autres ont senti qu'elle était différente, qu'elle menait en quelque sorte une double vie en étant l'hôte d'un parasite étrange qui est sa sœur. A-t-elle fini par devenir sa sœur, cet être manquant par tant d'absence? Elle se demande si elle comptera double, elle qui n'a jamais compté simple. Elle se demande si elle parlera pour 2 dans la lignée des femmes qui se taisent. Si elle aura une langue double ou fourchue comme les serpents, si elle parlera à double sens. Elle se demande si elle a déjà développé un dédoublement de personnalité, si s'est opéré en elle une sorte de transfert ou de bipolarité. De quoi ou de qui est-elle le symptôme, d'une perte ou d'un trop-plein? On lui disait souvent, enfant, Maud qui rit, Maud qui pleure. Y a-t-il 2 Maudes en elle ou une seule découpée en morceaux de rire et de pleurs? Elle se demande si elle entendra mieux les sons intérieurs de son corps, si elle chantera double, si elle atteindra l'oreille absolue. Elle se demande si cela ne la rendra pas un peu déesse aussi d'avoir franchi une sorte de tabou, une déesse délaissée et étrangère, une Médée en voie de disparition successive. Elle se demande si elle tenait mieux debout avec cette double colonne vertébrale. Maintenant qu'on lui a enlevé sa sœur, va-t-elle pencher un peu? Cela lui pèse d'être sans, comme si on lui avait enlevé un œil, un pied, une contrée habitable. Et parfois, elle erre, telle Œdipe aveuglée et qui n'en finit pas de boiter. Maintenant qu'on lui a enlevé sa sœur, qu'elle vit en demi-mode, en mode mineur, va-t-elle perdre autre chose? Elle va devoir mettre les bouchées doubles pour exister, tout simplement. Elle se dit que cette histoire est à double tranchant, bien tranchant. Et le lait coulerait rouge à la coupe du rhizome. D'ailleurs, depuis quelque temps, elle s'intéresse étrangement aux plantes, leurs doubles bénéfices et vertus et poisons, leurs doubles floraisons, narcisses doubles, sanguinaires doubles. Et cela coule rouge dans sa tête et devant. La ligne a été franchie. Il en reste 2, ça va? Alors, cannibale. Et on y est. On lui a dit qu'elle avait avalé sa jumelle. Est-ce qu'on s'en remet? Elle a cherché depuis des histoires de cannibalisme. C'est très à la mode en ce moment dans des séries et quelques films. Mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Elle veut remonter plus loin dans la mythologie et l'histoire de l'art. Elle voit Cronos avalant ses enfants. Elle voit aussi le radeau de la Méduse. Lors d'un vernissage, elle fait étrangement la rencontre d'une descendante d'un rescapé du radeau. Elle sait ce que cela veut dire, qu'il a mangé de la chair humaine pour s'en sortir. Son amie ressasse toujours la même histoire de famille et comme elle est artiste, elle sculpte sans relâche le radeau et ses dérivants. D'immenses sculptures sur bois démesuré à la mesure de cette démesure. Elle sculpte aussi des chevaux en bois pris dans un lac gelé. Ils geignent, souffrent de froid, meurent noyés. C'est différent et c'est toujours la même histoire, l'eau, la noyade. Elle aussi le sait qui a mangé de la chair humaine. Fœtus ou chair d'homme en ascendance ne s'en remet jamais vraiment. Toujours quelque chose reste là, au fond de la gorge, ça coince. Elle, on lui a retiré le bout de sa sœur en elle, mais il n'empêche, elle l'a avalé au milieu de l'eau, échouée dans le liquide amniotique de leur mère. Sur les 2, elle est l'hôte et l'autre l'a noyée, l'a mangée, la parasite. Que devient-on avec cette chose mangée en soi? Elle ne l'a pas vomie, elle ne l'a pas déféquée, il a fallu la charcuter pour enlever sa sœur de son propre corps à elle. On lui a demandé si elle voulait le garder en souvenir, ce bout de sœur, ce tout petit bout développé en elle comme un enfant difforme et mort. Elle a dit « Non, merci, elle est polie. » On lui a appris dès la naissance à la fermer. Tellement fermer la bouche qu'elle se demande comment l'en avalait sa sœur. La ligne des femmes sans voix n'a pas perdu ses dents. Les dents sont longues et carnassières dans la famille. Elle le sait bien, ça s'est joué bien avant sa naissance. Et le dernier s'intitule l'école chic. L'école chic sont des drôles de fleurs. Tout semble à l'envers chez elles. Leurs fleurs poussent avant leurs feuilles. On les dit plantes hystérantées. Ça te ferait presque penser à hystérique. Est-ce lié ? Elles possèdent des tépales, non des pétales. Et tout dans cette plante est toxique, des fleurs, aux feuilles, aux graines, qui empoisonnent les vaches qui les dévorent dans les prés, lentement s'empoisonnent, comme les enfants qui jouent avec leurs graines, qu'ils sucent comme des noix, ou les adultes bêta qui en font des pestos bio en les confondant avec des crocus. Tu as de qui tenir une famille de colchiques, une lignée de femmes, toxiques comme malgré elles et lentement s'empoisonnent. Mais est-ce seulement ta famille ? N'est-ce pas là bien avant ta naissance et dans d'autres familles? Les femmes que tu as pu rencontrer t'ont semblé bien toxiques souvent, et cela ne t'a pas aidé à aller vers des hommes qui ne l'étaient pas. Le toxique appelle le toxique, on s'empoisonne tous lentement. Une société d'empoisonnement collectif, tu le vois bien, les images, les infos, les intox, les botox, qui est-on vraiment? Tu ne reconnais plus tellement le monde, même s'il t'a toujours semblé étrange ou étranger. Mais tu sens dans tes veines ce poison qui ne fait pas que couler en toi, cherche à s'écouler, se répandre. Tu ne peux pas rester étouffé avec, il faut que ça sorte. Une forme de violence et de rage se distille dans tes veines, tout ton corps, et tu as beau lutter, créer, agir, transformer, ça doit quand même sortir. Alors, tu inventes un monde où le cri devient rire, et tu ris de tout, même du plus grave. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ton arme à toi, et elle est bien moins cruelle que d'autres. Tu inventes aussi une pièce à l'intérieur de toi que tu aimerais construire. C'est ton projet du moment, une pièce à cri, où chacun pourrait hurler le poison qui l'envenime. Et si ça permettait de moins empoisonner les autres? Tu pensais écrire un livre qui s'appellerait « Colchique ». Et puis tu t'es dit que ça ferait trop floral, et que ce serait mentir sur la marchandise. Finalement, tu t'es dit que c'était bien cela qu'on vous inculquait, ce mensonge primordial. Alors oui, c'est colchique et ça le restera. Tu l'as choisi d'après ces vers d'Apollinaire qui te trottent dans la tête et que tu as mis longtemps à comprendre, surtout ces mères, filles de leurs filles. On t'explique à la fac que c'est parce que les fleurs poussent avant les feuilles, ce qui inverse le rapport naturel, l'ordre de la lignée. Mais ce que tu y vois n'est pas seulement d'ordre botanique, c'est plus profond. Tu sens, ça te parle de loin comme du ventre même des poupées russes. Non, toi, tu vois dangereusement cette trace de la lignée de qui est donc la mère et la fille, qui est-elle des deux? Fusion de lignes au front des rides que le temps n'effacera pas. Tu sens bien qu'il y a autre chose, et en cherchant sur Internet, tu vois que Colchic vient de Colchide, le pays de Médée. Médée la magicienne, Médée l'empoisonneuse, Médée la dévoreuse de ses propres enfants. Enfin, d'après certaines versions de l'histoire, celles écrites par les hommes et que les femmes avalent. Jusqu'à quand ?
Voilà. Merci.